blogueuses, game blogueurs, bienvenue dans le 246e podcast de la rédaction de Gameblog, un podcast qui aujourd'hui va revenir sur l'affaire Game, vous le savez, l'une des enseignes majeures de la distribution physique de jeux vidéo en France, s'apprête à fermer ses portes. C'est d'ailleurs le cas déjà depuis samedi dernier. Les boutiques ont définitivement abaissé leur rideau de fer, une aventure qui aura duré plusieurs années mais qui se conclut aujourd'hui un petit peu dans la tristesse et pour certains dans la compréhension. Vous avez été particulièrement nombreux à réagir puisque cela concerne quand même au final quasiment 1000 employés en France, et donc nous avons décidé de dédier ce podcast à cette affaire. Pour cela, nous avons avec nous deux responsables de boutique. Alors bien évidemment, pour conserver leur anonymat, nous avons un responsable de boutique Game que nous appellerons Cyril. Comment vas-tu, Cyril?
Ça va très bien.
Merci d'être avec nous. Ça va être intéressant d'avoir ton éclairage, puisque bien évidemment, tu as été au cœur de cette histoire depuis le début et tu as vu un peu la progression et puis les incompréhensions qu'il y a pu avoir entre les salariés de Game et sa direction. On reviendra dessus. D'ailleurs, sachez que nous avons bien évidemment contacté la direction de Game afin d'avoir leurs propos dans ce podcast. Finalement, ils ne seront, vous allez l'entendre surtout, pas présents dans ce podcast, puisque désormais, l'administrateur judiciaire qui a repris le dossier n'a pas souhaité qu'il participe à ce podcast. Voilà, néanmoins, suite à nos nombreux dialogues que nous avons pu avoir dans les semaines, on va essayer de donner un petit peu leur vision, histoire d'avoir tous les partis les mieux représentés. Et puis, enfin, un autre invité, c'était un responsable aussi de Micromania, lui aussi avec un pseudonyme. Est-ce que ça va bien, Gabriel?
Ça va très bien, Julien.
Parfait. Alors justement, toi, ton éclairage est intéressant puisque ça va permettre d'avoir une vision un peu plus dépassionnée de cette affaire et voir le regard un petit peu que des concurrents, mais aussi parfois amis, puisque je crois que tu as pas mal de connaissances qui travaillent chez Game, ont pu avoir sur cette affaire. Et on verra aussi en fin de podcast un petit peu quel est l'avenir des boutiques de jeux vidéo en France. Est-ce que Game finalement n'est pas qu'une première étape? Qu'est-ce qui s'est passé et quel est le regard que tu peux porter? Pourquoi est-ce que le modèle Game, visiblement en tout cas, n'a pas fonctionné? Pour cela, bien sûr, je suis entouré de Julo et Raon.
Hello!
Salut, ça va très bien, merci.
Bon, messieurs, est-ce que tout le monde est prêt? On va donc commencer un petit peu par la chronologie des événements, puisque bien évidemment, si on attend pour vendredi, ce vendredi, 25 janvier, la décision finale du tribunal de commerce de Bobigny, qui scellera définitivement le sort de Game. Vous le savez, aujourd'hui, il y a trois offres de reprise partielle de boutique. Deux offres, celle de Micromania et de Gamecash, qui comprennent aussi une reprise de salariés. Micromania, c'est 44 magasins qui sont visés et 88 salariés repris potentiellement. Du côté de Gamecash, c'est 22 magasins Game visés et 58 salariés repris. Et puis, je vous le disais, une troisième offre, mais qui celle-là ne comprend que des boutiques. Il s'agit de l'offre de Free. Et pour ceux, puisque nous avons publié les différentes listes des boutiques visées que vous pouvez retrouver sur Gameblog, pour ceux qui se diraient on ne comprend pas, il y a certaines boutiques qu'on retrouve dans les différentes listes. C'est bien évidemment normal puisqu'il s'agit d'offres de reprise et que chaque offre avancée, certaines visent les mêmes boutiques, puisqu'il y en a certaines qui sont peut-être plus stratégiques ou mieux situées.
Forcément.
Que d'autres, voilà. Alors, refaisons un petit peu la chronologie des événements. Il faut savoir qu'en mars 2012, Game UK, donc la maison mère de Game France, est rachetée par Hop Capita, et ces derniers ne se sont pas montrés intéressés par la filiale française. Du coup, Game France devient autonome. Nous sommes il y a quasiment maintenant un an. Le problème, c'est que depuis trois ans, Game France est en perte opérationnelle et sans acteur actionnaire majoritaire, finalement, pour éponger les dettes, Game France se retrouve en grosse difficulté. Le marché du jeu vidéo se portant en France un peu moins bien ces dernières années. Les ventes quand même sont en berne depuis quelques temps. Tout s'est rapidement tendu. Et du coup, pendant l'été 2012, il y a des discussions qui ont été entamées avec le CE, le comité d'entreprise de Game, sur la fermeture éventuelle de magasins qui n'étaient pas rentables, voire certains qui n'ont jamais été rentables apparemment. Et cette situation financière qui n'a cessé de se dégrader a entraîné finalement le groupe Game à se placer en redressement judiciaire en septembre 2012. Et c'est à partir de là finalement que tout a commencé pour les employés. Comment est-ce que, Cyril, vous avez vécu en interne cette montée en puissance justement de la situation délicate de Game?
On se doutait depuis le mois de mars, quand l'Angleterre nous a lâchés, qu'on allait, gentiment couler au fil des mois. Malgré qu'on ait eu un mail de Steve Mason au mois de mars en disant que...
Steve Mason, qui est le... Steve Mason, le patron de Game France, c'est ça?
Steve Mason, c'est le DG de Game France. D'accord. Donc il nous avait envoyé un mail en mars pour nous rassurer qu'il n'y aurait pas de fermeture, démentir toutes les rumeurs de fermeture. Mais on se doutait en interne que bon, ça sentait mauvais quand même.
Quels sont les signes, justement, les premiers signes qui vous ont vraiment alerté sur peut-être, on va dire, un discours qu'il ne fallait pas prendre au pied de la lettre de la direction?
Quelques semaines après, on a commencé à avoir des livraisons de plus en plus anarchiques, on va dire. Il n'y avait rien dans les livraisons. Puis on avait aussi un nouveau logiciel qui était en place, qui était Jupiter, qui était complètement foireux. La gestion espagnole aussi de Game France, qui nous a bien coulé. Donc tout ça additionné, on s'est dit bon, ça sent mauvais quoi.
Ça, on en reparlera justement du logiciel, parce que c'est revenu assez souvent dans les communications que j'ai pu avoir avec des employés de Game. On en reviendra sur les raisons peut-être qui ont entraîné ce naufrage. Le logiciel qui vous a véritablement planté apparemment, en tout cas qui vous ont fait perdre beaucoup de temps.
C'est quoi ce logiciel en fait? C'est un logiciel de quoi?
C'est un logiciel de caisse en fait, qui est espagnol à la base.
D'accord.
Donc on a eu ce logiciel qui était très mal traduit, donc on a moitié français, moitié espagnol, et qui fait que planter. Donc c'est assez dur à gérer.
Ok.
Alors justement, très rapidement, après des discours peut-être rassurants, il y a eu des premiers départs et des premières fermetures de magasins Game à la fin de l'année dernière. Tu nous rappelles un petit peu combien de personnes ça touchait, combien de boutiques ont été visées lors de ce premier plan de départ en fait?
Il y a eu 35 fermetures pour 80 licenciements.
Je resitue un petit peu les choses pour qu'on ait une vision globale. À cette époque-là, selon un audit d'un organisme externe, en septembre 2012, Game France, c'est 200 magasins dans le territoire français pour environ 980 salariés, 980 employés, avec à la fois des CDI mais aussi des CDD.
C'était quoi la posture du DG là? Tu parlais d'un email qu'ils vous avaient envoyé et puis donc d'une indépendance par rapport à la maison mère. Ils avaient un discours rassurant vous disant voilà, on peut se débrouiller tout seul et ça peut marcher.
Le mail qu'on a eu donc en mars-avril, c'était oui, on devient indépendant, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Tout est nickel, tout va bien dans le meilleur des mondes. Game France va bien, on va y arriver.
Et suite au premier licenciement, du coup, cette communication-là avec la direction, elle a été rompue directement, ou est-ce qu'ils ont voulu se montrer encore rassurants après les premiers départs?
Derrière, oui, ils ont encore voulu se montrer rassurants. On passe en redressement judiciaire, des magasins fermés, mais c'est pas grave, on va récupérer de l'argent grâce aux fermetures, on va se mettre en vente sur Internet, on va se spécialiser là-dedans, Game France va aller bien, quoi. On va se relever.
C'était une stratégie de redressement un petit peu, quoi.
Ouais, voilà.
Justement, tu t'évoquais là cette possibilité, enfin en tout cas la communication de la direction qui parlait de prendre le virage Internet. On a envie de dire peut-être un peu trop tard. C'est ce qui martelait, mais comment c'était vécu justement en boutique, puisque qui dit vente par correspondance par Internet égale forcément pour vous employés physiques, déjà un premier signe que c'est pas la bonne direction.
Le but de la chose pour eux, c'était de vendre sur Internet et de faire livrer les produits en magasin.
D'accord.
Donc après, on n'était pas spécialement inquiets par rapport à ça.
C'est pas très pratique pour l'utilisateur quand même.
C'est vrai que c'est un peu
d'intérêt. C'est pas la mentalité Internet. Si tu l'achètes, tu le reçois chez toi.
Ouais. Bon, apparemment, eux, ce qui était prévu, c'est de le faire livrer en magasin.
D'accord. Alors à partir de là, clairement, il y a une cassure qui s'opère entre les salariés, en tout cas une partie, et la direction. Véritablement un problème de communication, en tout cas ressenti par les salariés.
Il y a que, en fait, beaucoup de magasins ont reçu la visite à l'époque de notre directeur des travaux, qui était accompagné de soi-disant agents de la mairie ou employés de Bâtiments de France, qui étaient en fait des agents immobiliers, qui venaient prendre les mesures pour vendre les magasins.
D'accord.
C'est pas mal.
Donc voilà, ça on a des preuves, on a des photocopies de mails donc ce directeur des travaux, on a la photocopie des pièces d'identité des personnes, donc on s'est quand même couvert, Et t'as aussi des panneaux à vendre qui ont été posés sur des magasins par surprise.
D'accord. Et à ce moment-là, la direction dit « Non, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de plan de fermeture massif, etc. » C'est ça.
En fait, c'est ces personnes-là qui ont eu donc la visite de directeur des travaux, ont envoyé des mails justement à la direction pour savoir qu'est-ce qui se passe. Quoi.
Et qu'est-ce qu'elle répondait?
Pas de réponse, naturellement.
Elle répondait pas du tout.
Ah non, pas de réponse. On recevait des mails, type quoi. Non, mais je t'ai déjà répondu, par exemple.
D'accord. Ah oui, d'accord, ok.
Alors qu'il n'y a pas eu de réponse.
Retrouve le mail que je t'ai pas envoyé. et comment ça se passait aussi avec le CE? Parce qu'apparemment...
quel CE?
Ouais. c'est ce qui revient dans tous les témoignages d'employés Games, c'est apparemment il y a eu un abandon du CE, en tout cas ressenti comme ça.
Pour dire aussi, voir leur position, c'est que les magasins qui ont fermé, mm-hmm. tu as certains responsables de magasins qui n'ont rencontré personne de la direction ou personne du CE. Ils ont fermé leur magasin en solo, on les a laissés se démerder, quoi.
D'accord.
Donc ça prouve que vraiment le CE était vraiment transparent, quoi. Personne n'est passé les voir pour leur expliquer ce qui se passait.
On nous disait même que les numéros avaient été changés.
On n'arrive pas à les joindre, donc les numéros ont changé. Quand on leur envoie des mails, ils ne répondent pas. Donc on a demandé les numéros de téléphone, justement. Mm-hmm. Et pas de réponse.
D'accord. Alors, clairement, en ce début d'année 2013, le virage, les choses s'accélèrent. Et là, ça ne fait plus aucun doute très rapidement que l'aventure game en France va s'arrêter assez rapidement. Quand vous avez commencé à le ressentir que là, globalement, c'était pas des fermetures sporadiques, mais bien la fin de game, il n'y a pas eu un sursaut de la part de la direction? Il n'y a pas eu une volonté de communiquer plus?
Bah non, enfin, dernièrement, on a eu, après Noël, on a eu l'offre magnifique de Noël. Mmh. Il sentait bon le sapin. Donc avec les moins 25% sur tout le magasin, moins 5% sur les consoles.
Ouais. Ouais.
Donc là, on s'est dit, franchement, là, c'est la fin, quoi. Ils nous prennent pour des idiots, quoi. C'était magnifique, quoi.
Alors, bien évidemment, nous, on a contacté la direction de Game pour avoir aussi leur point sur cette situation et sur ce malaise qui s'est instauré au niveau de la communication entre les employés et la direction. Alors, eux, ils se sentent un peu piégés dans cette histoire puisqu'ils disent qu'en fait, ils n'avaient pas toutes les cartes en main. L'administrateur judiciaire, donc le fameux, celui qui fait
qui est donc mandaté par l'État pour éventuellement redresser la situation.
Et qui fait qu'aucun responsable de Game n'est aujourd'hui avec nous, pour pouvoir justement s'exprimer directement. L'administrateur judiciaire a véritablement voulu la confidentialité sur toutes les offres de reprise, etc. Et donc sur la communication faite en interne. Et apparemment, certaines dates clés de communication qui étaient prévues auraient été changées, notamment la date limite du dépôt des offres, alors que la direction, apparemment, vous aurait prévenu des points de passage. On va dire, on va communiquer, on va revenir vers vous à partir, je dis n'importe quoi, du 14. Et ça n'a pas été tenu, apparemment, par des changements de date opérés par l'administrateur judiciaire. Et par exemple, ils nous disent qu'ils s'étaient engagés de communiquer avec les employés LCE, et puis quelques jours avant la date fatidique, la date a été reportée. Et ce qui leur fait dire que les gens ont eu l'impression qu'on les menait en bateau, ce qui est compréhensible. Comment tu juges ça? Est-ce que tu penses que c'est vrai, eux-mêmes finalement se sont fait un peu piéger, ou finalement c'est un peu de la langue de bois et tu juges que c'est un petit peu trivial de répondre comme ça?
Je pense que oui, l'administrateur a changé les dates, donc ça après c'est pas de leur ressort, c'est sûr. Mm-hmm. Mais après l'accord de confidentialité il portait que sur les offres de reprise.
Mm-hmm. Oui, c'est-à-dire qu'ils pouvaient communiquer d'autres choses, quoi. Ils pouvaient dire Ouais, il pouvait dire au moins.
Dire vraiment, la boîte va pas bien, attendez-vous, parce que c'est des choses qui changent, quoi.
Mmh. Ouais.
Pour être très clair.
On n'a vraiment eu aucune communication.
Voilà, pour être très clair, de septembre 2012 à aujourd'hui, vous avez eu combien de messages, on va dire, officiels, de communication officielle de la direction?
En étant je vais dire 3.
3. Qui portaient sur des points importants?
Pas vraiment, parce qu'en fait, de Steve Mason. Il nous confirmait des choses qu'on savait déjà, donc c'est quelqu'un de la direction qui l'avait poussé à le faire, justement, sur sa demande.
D'accord.
Donc il nous apportait rien de plus à chaque fois. Mmh.
Alors finalement, c'est 157 magasins en France, 557 CDI, dont 75 au siège et une centaine de CDD, ça c'est la masse salariale de Game aujourd'hui, et donc finalement c'est quand même 411 employés qui devront pointer au chômage, même si toutes les offres de reprise sont acceptées, ce qui reste encore à voir, puisque d'après nos informations, il y en aurait certaines en plus qu'on aurait demandé d'améliorer encore au niveau de la reprise de salariés. On voit que par exemple Micromania reprend plus de boutiques, mais proportionnellement moins de salariés que Gamecash. Comment s'est vécu ça en interne finalement, un petit peu ces offres de reprise pour ceux qui sont visés? C'est un soulagement ou pas tant que ça, et pour les autres?
Alors ça dépend des magasins, on va dire.
Ouais.
Tu vas voir des magasins qui sont repris où les employés sont complètement dégoûtés, écœurés, et qui veulent vraiment partir et passer à autre chose.
Ouais.
Donc là, c'est des gars qui vont être repris, qui vont plus avoir aucune motivation, et franchement, ça va être compliqué pour Micromania, je pense, de les rebooster. Hein. Mmh. Et après, il y a d'autres magasins où les gars sont soulagés, ils sont contents d'être repris. Par rapport à Micromania, je parle. Hein. Après, Gamecash, c'est un peu différent. Pour les gars que j'ai eu au téléphone, la plupart sont vraiment inquiets. Hein.
Ceux qui seront potentiellement visés par les offres de reprise de Gamecash ?
Ouais, Gamecash, vu que c'est un réseau de franchisés, mmh. Donc les gars à l'intérieur se demandent ce qu'ils vont devenir. Par exemple, les responsables de magasins, ils se demandent vraiment ce qu'ils vont devenir vu que c'est des franchisés.
D'accord. Pourquoi elle vient d'où la crainte qu'on comprenne bien au niveau des franchises ?
Bah, les franchisés, il y a que ça appartient, c'est quelqu'un qui va racheter en fait le magasin. Mmh. Donc le responsable de magasin à terme, il est amené à sauter.
Ouais.
Il sera remplacé par le racheteur, donc hein, c'est ça.
Voilà, logiquement, c'est ce qui va arriver. Hein.
Ouais, c'est la différence entre une vraie chaîne de boutiques où toutes les boutiques appartiennent à une maison mère et le système de la franchise où plusieurs entrepreneurs différents avec des sociétés différentes sont réunis sous une bannière commune.
Mmh. Voilà, c'est ça le principe de Gamecash. Hein.
Mmh. Ok.
Alors, il y a un épisode sur lequel on est obligé de revenir, c'est l'épisode des soldes. Il est assez symptomatique de tout ce qui s'est passé. Donc, il y a quelques jours, ouverture des soldes, et là, des rabais incroyables. Moins 60% dès le premier jour sur les jeux, moins 30% sur les consoles. Ça s'est accéléré encore. Et alors là, on a eu véritablement des scènes qu'on pourrait qualifier presque de pillage, alors sans la violence, on va dire, encore heureux.
Et sans l'illégalité aussi.
Mais vraiment, les boutiques ont été dévalisées en tout cas. Je crois qu'à ce moment-là, il y a beaucoup d'employés qui l'ont très très mal vécu.
Bah, à la base, notre DG nous a annoncé ça comme des soldes agressifs pour contrer la concurrence. Mmh.
Donc à ce moment-là, il y a quelques jours, il n'y a toujours pas de communication sur...
Voilà, on s'est toujours moqué de nous depuis le début. Quoi. Ouais. On a annoncé ça comme des soldes agressives. Mmh. Contre la concurrence, donc c'est un peu du foutage de gueule, quoi.
Mais confirme-moi, mais les vendre des consoles à moins 30%, ça veut dire les vendre complètement à perte, non ? Parce que vous n'avez pas de marge.
Complètement à perte, là, ils ont mangé leur marge totalement. Hein.
Oui, c'est le seul. Julien précise qu'effectivement, c'est le seul moment de l'année en France où tu as le droit de vendre à perte, c'est pendant les soldes.
Okay. Voilà. Ouais.
Et juste par curiosité, donc quand est-ce que la direction vous a communiqué qu'elle allait faire ses soldes par rapport à la date des soldes ?
Alors, ça a commencé le mercredi, on était prévenu le mardi soir vers 19h-19h30.
Ah ouais. D'accord, donc largement assez de temps pour vous retourner et accompagner le mouvement.
Ah ouais, c'était okay. Merveilleux.
Très bien.
Comment ça s'est passé dans les boutiques ? Vous aviez, j'imagine qu'il y avait plusieurs styles de joueurs, il y avait ceux qui venaient juste pour faire des bonnes affaires. J'ai entendu dire aussi qu'il y avait d'autres responsables d'autres boutiques qui venaient faire leurs courses pour pouvoir après les revendre eux, à meilleur prix du coup.
Des gens qui revendaient aussi après
et
sur eBay.
J'imagine qu'il y a eu des joueurs qui étaient peut-être plus en empathie et qui venait vous parler un petit peu.
Bah en fait, on a assisté à... Enfin, moi, je vais être cru. Après, on a assisté à un viol collectif en magasin. On a eu des bandes de charognards qui sont venus piller les magasins. Mmh. On a eu des employés de cash converteurs, pour ne pas les citer, qui ont été prévenus par notre direction, qui pouvaient venir se servir.
Ah oui.
Donc, les mecs, ils arrivaient avec 4 ou 5 caddies pour les remplir, quoi.
D'accord.
Mais pourquoi la direction va directement prévenir Cash Converter en particulier, ou à moins qu'ils aient prévenu d'autres enseignes, je sais pas.
Donc moi, sur mon magasin, c'était Cash Converter. Après, je sais qu'Easy Cash est passé dans d'autres boutiques aussi. Mmh. Mais on sait pas qui la direction a bavé, donc.
D'accord.
Mais bon, c'est
alors
sympa.
Finalement, en fait, c'était de la liquidation déguisée.
Ouais, c'est des liquidations bien, bien déguisées, ouais, en solde. Mmh.
Et ça, ça pas une volonté quelque part d'écouler les stocks pour qu'il y ait finalement rien qui reste de choses à gérer. Enfin, il y a une volonté derrière. Parce que nous, la direction nous a présenté ces soldes extrêmement agressifs, justement, comme l'occasion de pouvoir renflouer des caisses qu'on a bien compris étaient sacrément vides chez Game pour pouvoir, et on va en parler dans quelques instants, payer finalement les départs de ces employés. Et que du coup, le succès de ces soldes permettait le succès de meilleurs départs, enfin de meilleures conditions de départ.
Alors c'est la version qu'on a depuis quelques jours. Hein. Mmh. Donc c'est soi-disant pour remplir la trésorerie pour pouvoir nous payer les indemnités de départ. Mais après, leur liquidation cachée, c'est depuis l'offre de Noël à moins 25%. Hein. Ça, on s'en est rendu compte. Hein. Mmh.
Pourquoi tu dis soi-disant ? Puisque quelles sont aujourd'hui justement les conditions de départ que la direction vous a exposées ?
on aura le minimum légal. Donc rien d'exceptionnel.
Tu peux nous détailler ce que c'est du coup ?
Pardon ?
Tu peux nous détailler ce que c'est, ce minimum ?
En gros, c'est une prime de licenciement ras des pâquerettes, un an de salaire assuré par Pôle emploi derrière, une aide à la reconversion, et une deuxième année à 65% du salaire. Brut, hein.
Alors là, je vais me faire l'avocat du diable, mais il me semble qu'en cas de redressement, il n'y a pas d'obligation légale d'aller au-delà du minimum légal, justement. Et quelque part, est-ce qu'on peut pas se dire que, vu les difficultés de Game financières, après on va reparler des raisons qui ont entraîné ces difficultés, mais est-ce que c'est pas impossible, tout simplement, pour Game de faire autre chose que le minimum légal ?
Bah après, c'est à notre CE de discuter avec l'administrateur judiciaire pour savoir ce qui doit être fait. Sauf qu'on ne sait pas ce que notre CE fait. On ne sait pas s'ils sont en train de discuter ou pas avec l'administrateur judiciaire, vu qu'on n'a aucune information de leur part.
Il y a eu une communication, là. Enfin, en tout cas, il y a eu une réunion qui s'est passée lundi dernier. Enfin, lundi maintenant.
Il y a eu une réunion.
Ouais.
Mais donc les informations qu'on a, ça vient directement de notre service opération. Parce que nos directeurs régionaux sont montés taper du poing sur la table donc lundi. Pour demander des explications et pour remonter les revendications des employés. Parce que le CE s'est présenté devant l'administrateur judiciaire en disant que les employés n'avaient aucune revendication.
Mais c'est atterrant.
Mais je comprends pas pourquoi. Pourquoi le CE fait ça en fait, quel est leur intérêt à cacher en fait les revendications des employés, quoi. Pourquoi ils font ça ?
Bah là, on est dans une cour d'école, j'ai l'impression. C'est OK Corral, quoi. C'est chacun pour sa gueule. Et donc, on sait qu'une des membres du CE a réussi à se faire muter juste avant l'affaire dans un magasin qui était repris par Micromania. Donc, après, c'est devenu chacun pour sa gueule, quoi.
C'est donc surtout ne pas faire de vagues et donc ne pas présenter des difficultés dans ce climat-là. En fait, c'est ça, a priori, le but qu'ils poursuivent en ne transmettant pas ce qui se passe, quoi.
Voilà, en fait, leur but, ouais, voilà, c'est d'avoir le minimum légal et de absolument pas communiquer.
Alors, la réunion, elle avait lieu lundi 14 janvier. D'après les informations que j'ai pu recueillir, il y aurait même le CE aurait essayé de ne pas encourager, on va dire, certains salariés à venir se présenter devant la direction ou, en tout cas, à pas manifester ou minimiser tout.
Enfin, l'administrateur donc, est arrivé à 14h30.
Ouais.
Donc plusieurs employés de la région parisienne ont voulu passer lundi matin au siège pour rencontrer des membres du CE et de la direction. Et donc cette même personne qui a été mutée à Micromania, enfin mutée dans un magasin qui a pris par Micromania, excusez-moi, donc a envoyé des mails, a appelé les gens pour leur dire non mais ne venez pas, ça va être néfaste, l'administrateur ne va pas être content, faut pas que vous veniez. Donc elle a tout fait pour essayer de nous dissuader.
Et là, on en vient à un point qui, je sais, pour l'avoir eu plusieurs fois au téléphone, qui est revenu très souvent, qui est ce décalage qu'il y a eu au niveau du relais médiatique entre l'affaire Game et donc finalement la suppression au global. Hein, si on va jusqu'à septembre 2012, de quasiment 1000 emplois, et celle de Virgin, qui concerne 1000 emplois, c'est-à-dire une situation finalement à somme toute assez similaire, avec un écho national pour le cas de Virgin, et à peu près rien pour le cas de Game, en tout cas jusqu'à il y a très peu de temps.
Oui,
vous l'avez
encore,
très mal vécu, je crois.
Ah bah ça a été complètement déprimant. Enfin on est vraiment déprimé en magasin quand on se dit merde, quand on est quand même autant nombreux qu'eux, leur CE se bouge, manifeste avec eux, les syndicats se bougent et nous notre côté notre CE fait ils font les morts, les syndicats se bougent pas et on nous laisse crever en magasin avec des magasins vides et personne parle de nous.
Comment
c'est sûr que c'est assez difficile à vivre.
Alors, pour être franc, pour en avoir parlé aussi avec la direction, ils étaient aussi un petit peu éberlués de, on va dire, la mollesse médiatique autour de leur cas. Comment tu l'expliquerais, toi ?
Ils n'ont pas du tout communiqué aussi en interne. Le CE de Virgin a contacté les médias directement, apparemment, parce que j'ai su, parce que j'ai un collègue à Virgin, alors que notre CE n'a pas du tout contacté les médias.
Mmh. Et vous n'avez pas essayé de le faire vous-même ?
On a essayé, donc Julien sait que je l'ai contacté. Après, moi, j'ai essayé de contacter TF1, M6, BFM TV. On n'a pas forcément de réponse. Donc, il y a des collègues qui ont réussi à contacter France 3 dans leur région. Donc ouais. Il y a eu quelques reportages dans les 13h et les 20h.
Finalement, dans la région. Et sur les derniers jours, j'ai l'impression.
Intervention.
Ouais, alors, Gabriel, donc, de Micromania.
Juste pour surenchérir sur ce que vous venez de dire, ce qui est assez atterrant, effectivement, de placer, je veux dire, les 600 salariés de Game, les 1000 au final, sont tout aussi importants que ceux de Virgin ou ceux d'Arcelor il y a quelques temps. Et moi, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec un journaliste de ma région qui était venu pour Noël sur 2-3 trucs. Et le journaliste me dit cash, et ça, c'est lié en grande partie à ça, le jeu vidéo n'est pas un art majeur. Mmh. Donc, les mecs, ils n'en avaient strictement rien à faire. Mais je pense que ça a joué aussi dans la tête des gens. Le jeu vidéo, c'est pour beaucoup du monde journalistique traditionnel, ça représente rien pour eux, ça veut rien dire, et ils s'en foutent. Mmh. Et là, c'est atterrant, parce que te faire toi qui bosses dans le jeu, quand un journaliste sort ça, dit généraliste, ça fait super mal au cœur, quoi. Et pour eux, je me mets à leur place, c'est horrible.
Mais d'autant que ça n'a aucun lien. C'est pas la question. La place culturelle du jeu vidéo n'a aucun lien avec le fait qu'il emploie des gens qui se retrouvent sur le carreau ou non. Enfin, ça n'a rien à voir.
On est tout à fait d'accord.
Mais finalement, dans les derniers jours, on a vu sur Le Figaro, on a vu sur TF1 News, on a vu même sur BFM, ça a été repris, on va dire, depuis lundi 14, et donc les offres de reprise assez fortement. Du côté des sites spécialisés, ça reste assez sommaire.
Au niveau des sites.
Cyril ?
Non, vas-y.
Au niveau des sites spécialisés, ouais, après, il n'y a que les sites spécialisés en fait, qui ont bougé. Quoi. Au niveau des médias, ça s'est limité à ça.
Ouais. Donc, vous vous êtes senti un petit peu abandonné dans cette histoire, j'ai l'impression.
Enfin, moi, j'ai pas entendu. Ouais.
Je dis, vous vous êtes senti un petit peu abandonné dans cette histoire, au final.
Ouais, on s'est senti complètement abandonné. Hein. Ça a été lamentable. Hein.
Alors, pour conclure un petit peu sur la chronologie, c'est quoi les prochaines étapes ? On a vu donc samedi dernier, samedi soir dernier, les boutiques
fermetures
concernées.
Des magasins au plus tard ce samedi.
Enfin, samedi dernier.
Comme je disais, moi, sur mon magasin, on a fermé aujourd'hui pour commencer à préparer les cartons. Mm-hmm. Et donc, lundi, mardi, on finit donc de préparer les colis.
Alors Cyril, juste une chose. Cyril, juste une chose pour que les gens comprennent bien.
Ouais.
Ce podcast est enregistré le vendredi 18. Donc, quand tu dis lundi ou mardi, c'était hier et avant-hier.
C'est passé.
Voilà.
Voilà. Donc les dates, je les ai. Donc ouais, c'est fermeture le samedi 19 donc. Mmh. Et préparation des colis donc le lundi 21, mardi 22.
Tu dis les colis, c'est-à-dire ?
Et mise à disposition le mercredi 23.
Qu'est-ce que tu appelles les colis ?
Bah, tous les produits qu'on a en magasin, donc occasion, neuf, défectueux, envoyés directement à l'entrepôt.
Oui, c'est ça, ils repartent au siège quoi.
Ils repartent au siège. Et donc ils vont faire un inventaire après directement au siège.
D'accord.
qui va permettre d'avoir la prime de fermeture pour les employés.
Ok. Il y a une mise à disposition des employés qui s'opère cette semaine, c'est ça ?
Pardon ?
Je dis, il y a une mise à disposition des employés qui s'opère cette semaine ?
Qui se passe donc le mercredi 23, si je me trompe pas de date.
Donc
mercredi 23.
Aujourd'hui même. À date de,
dans donc, voilà,
de
donc,
diffusion.
Ouais, voilà, date du podcast. Mmh. Et donc, jusqu'à la décision du tribunal de la liquidation totale de Game.
D'accord, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, les employés peuvent être chez eux et sont dans l'attente de ce qui va se passer.
De la décision.
Ok. On sent quand même que c'est une page clairement qui se tourne. Game s'était implanté en France depuis quand ?
Alors, Game, ils ont commencé il y a une petite quinzaine d'années.
Parce qu'avant d'être Game, c'était Score Game ?
Score Game.
Score Game, ouais. Donc il y avait une petite dizaine de magasins au début sur Paris. Hein.
Mm-hmm.
Et après, comme ils ont commencé à s'implanter, ils ont racheté Maxi Livre.
Mm-hmm.
Qui a été une grosse erreur, hein, Maxi Livre aussi.
On va y revenir dans quelques instants, ouais.
Ouais.
Ouais, juste moi, j'ai une question pour Gabriel de Micromania. Juste à ce moment-là, quand vous voyez toute cette chronologie se dérouler sous vos yeux, vous qui êtes chez Micromania et donc pas concerné, on va dire directement, comment est-ce que vous observez ces faits ? Est-ce que ça vous fait flipper de votre côté ? Quel regard que vous portez sur toute cette affaire ? La façon dont la direction a non communiqué, etc., etc.
Alors, la seule chose qui fait flipper, c'est de la manière dont ils ont traité leurs propres employés. Ça, c'est, c'est assez atterrant. De, moi, j'en connaissais une partie, mais de ce que vient de raconter Cyril, c'est effectivement pire que ce que je pensais. Donc, cette partie-là, elle est effectivement extrêmement flippante. Après, pour une partie plus générale, comment on a vécu ça, nous, moi, à titre personnel, je l'ai vécu mal parce que j'ai pas mal de potes qui bossent aussi chez Game et de la famille. Donc, effectivement, ça se vit pas très bien non plus pour eux. Mmh. Après, est-ce que je m'imagine qu'on peut être dans le même cas à plus ou moins court terme? Non. Non, après, effectivement, je pourrais expliquer dans un peu plus tard dans la deuxième
partie. On va revenir dessus, ouais.
Pourquoi? Mais non, j'ai à l'heure actuelle, je n'ai pas de peur à court terme de finir malheureusement comme Game.
Mmh. Ok.
Alors, messieurs Cyril et Gabriel, on va essayer de comprendre pourquoi Game en est arrivé là. Je le disais en début de podcast, ça fait finalement 3 ans que Game enregistre des pertes opérationnelles. Donc, forcément, c'est une situation qui ne pouvait pas continuer bien longtemps comme ça. On va commencer par Cyril. Quelle est ton analyse, toi? Quelles sont, à ton avis, les raisons qui ont entraîné finalement cette fermeture de Game?
Après, c'est une accumulation d'erreurs, hein. Donc la direction qui a été défaillante. Il y a eu plusieurs mauvaises décisions qui ont été prises dans plusieurs services, hein, que ce soit service achat, communication. Il y a eu très peu de communication et des gens qui savent même pas que Game, ça existe. Mmh. Donc après, t'as eu aussi le rachat foireux de MaxiLibre. Il y a des magasins qui se sont retrouvés à 50 mètres l'un de l'autre. Donc ils sont
tu peux nous expliquer ce que c'est, MaxiLibre,
pas rentable, hein.
Tu peux nous expliquer ce qu'est MaxiLibre, pour ceux qui connaissent pas?
C'était un réseau de librairies, en fait. Mmh. Donc Game a racheté tout le réseau il y a 4-5 ans. Mmh. Et donc ils ont implanté leurs magasins, sauf que c'est des magasins qui se sont retrouvés à 50 mètres l'un de l'autre. Complètement inutile.
Et comment ils ont procédé? Ça veut dire qu'ils ont pris les employés de MaxiLibre et ils leur ont dit du jour au lendemain vous vendiez des livres et là maintenant vous allez vendre des jeux vidéo?
Voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc on a des collègues qui sont des anciens MaxiLibre qui ne connaissaient absolument rien aux jeux vidéo à la base. Mmh. Et qui avaient certains une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, quoi, qui se sont retrouvés responsables de magasins de jeux vidéo.
Ouais. Effectivement, donc pour parler de GTA, c'est peut-être un peu plus compliqué avec les joueurs qui venaient en boutique, ouais.
Mmh. Et après, bon, derrière, donc il y a eu la gestion espagnole de Game France qui a été complètement foireuse aussi, l'implantation de Jupiter.
Donc le logiciel.
Alors explique-nous pourquoi ça marchait pas et en quoi c'est, parce que quelque part un logiciel qui marche pas très bien, on peut se dire bon bah ok bah vous allez faire 100, ou c'est juste que ça vous a fait perdre du temps, ou c'est plus profond que ça?
Ça nous fait perdre du temps, c'est des logiciels qui plantaient, donc on pouvait plus du tout encaisser pendant toute une journée.
D'accord.
Donc c'était de l'encaissement, ah ouais, à la main derrière, donc c'était magnifique. Ça nous fait perdre un temps monstre. Sur le mois de février, il avait été implanté, ce logiciel. Sur le mois de février, on a fait quasiment aucun encaissement.
Février 2000...
les magasins pour un temps.
On est à quelle date, ouais, là? Février qu'on...
Février 2011, donc implantation de Jupiter. Donc tout le mois de février, on a implanté le logiciel, donc quasiment pas d'entrée d'argent.
D'accord, ouais.
Ah, donc, forcément, c'est problématique, ouais.
Ouais. Et derrière, après, ben, moi, j'ai connu Micromania aussi, donc... par rapport à Game, enfin, moi, ce que je reproche en magasin, c'est qu'il y avait, l'ambiance était trop cool. T'as des magasins qui avaient pas de résultats, il y avait aucune pression derrière, des magasins qui se retrouvent à 10 000 euros de démarque, personne leur dit rien.
Alors, juste qu'on comprenne bien, c'est quoi 10 000 euros de démarque?
La démarque, en fait, c'est de la perte.
D'accord.
Donc, des produits en perte, des produits volés en rayon ou par les employés directement.
Ah, ça veut dire, c'est à la fin du mois, tu fais le compte et puis tu te dis, bah, je comprends pas, j'aurais dû en vendre pour 10 000 euros de plus.
Non, c'est des produits perdus, en fait. On fait des inventaires, ouais, et il va te manquer 10 000 euros de produits en inventaire.
C'est ce qu'on appelle vulgairement les pertes et profits, en fait.
Voilà, donc t'as des magasins à 10 000 euros de démarque qui n'ont eu aucun souci, quoi. Les équipes se sont fait taper sur les doigts et c'est terminé. Alors que la même chose, ça serait passé à Micromania d'expérience, l'équipe aurait sauté, quoi.
Ouais. Mm. Tu nous confirmes ça, Gabriel? Cette différence, on va dire, de, je sais pas, de pression sur les boutiques?
Bah, après la pression, je ressens pas ça comme de la pression, mais par contre il a raison, oui, on a un contrôle extrêmement strict des stocks, t'as un inventaire à réaliser par mois, mm-hmm, et effectivement te retrouver avec des sommes de 10 000 euros de démarque, ça ne passerait absolument pas.
Ouais, ça se comprend.
Ça se comprend assez aisément. Toi justement, Gabriel, vu de l'extérieur, comment tu vois un petit peu cette situation? Effectivement, MaxiLibre, on sent que ça a été un moment un peu charnière, mais il y en a d'autres, j'imagine.
Moi, je vois trois points centraux qui ont malheureusement contribué à creuser la tombe de Game. Donc, Cyril, ce que vient de dire Cyril, le rachat de Maxi Livre avec effectivement des gens qui étaient liés à des produits culturels de livres passés aux jeux vidéo, c'est en exagérant à peine, c'est que tu avais des gens chez Maxi Livre qui avaient 45-50 ans et qui n'avaient jamais touché de leur vie. Ils ne savaient même pas ce que c'était qu'un jeu vidéo. Ouais. Donc, c'est compliqué de te reconvertir dans ces conditions-là. Donc, effectivement, ça a été une très mauvaise chose, sachant qu'aussi, comme disait Cyril, il y avait des maxi-livres qui étaient à 50 mètres d'un game existant ou qui étaient implantés dans des zones où, enfin, qui n'étaient pas très attractifs pour du jeu vidéo. Donc ça, ça a été la première pierre qui a creusé malheureusement leur tombe. Le deuxième point que moi je vois, c'est la guerre des prix. Quand ils ont voulu se lancer dans la guerre des prix, alors c'est très louable, effectivement, ça fait plaisir aux clients de base, mais la guerre des prix, il faut la lancer à des endroits choisis, sur des périodes choisies, parce que faire ça tout le temps, quand tu ne vends que du jeu vidéo, tu ne peux pas survivre. Alors, t'as plein de gens qui hurlent au scandale quand des boutiques vendent des jeux basiques à 69,99, alors qu'il est 15 euros moins cher dans une grande surface à côté. Mais il faut bien comprendre que la grande surface à côté, elle peut rattraper ses marges et ses pertes de produits d'appel sur du jeu vidéo, sur les fruits et légumes, sur les conserves, où ils marchent comme des porcs.
Ils se rattrapent, oui.
Et en plus, ils achètent moins cher, a priori.
Oui, ils ont aussi des conditions préférentielles, oui.
Ah, oui, bon, ça joue là-dessus.
Parce que c'est important. Gens, c'est important de rappeler ça sur un jeu neuf. C'est quelle est la marge pour la boutique, pour le revendeur?
Alors moi, je n'en sais rien. C'était techniquement, je gère une boutique pour la société. C'est des choses que moi qui ne sont pas de mon fait et que je n'ai pas comme info. Globalement, sur le podcast que vous aviez fait l'an passé avec Wave sur les indépendants, de ce qu'on en sait, c'est à peu près ça.
D'accord.
Cyril, toi,
au niveau des marges, on a eu accès, on va dire, entre guillemets, aux marges parce qu'on faisait des alignements de prix au niveau de la concurrence. Donc on pouvait pas rogner plus que les marges. Et les marges sur un jeu, ça compte entre 5 et 15 euros.
D'accord.
Ça dépend du jeu. Sur une console, c'est à peu près 5 euros.
Et c'est dingue, ça. Et sur les consoles, tu nous as dit, c'est combien?
5 euros.
À peu près 5 euros.
Donc c'est rien du tout.
C'est complètement dingue. Les consoles, c'est même rien du tout au final parce que prends le coût de transport pour les faire venir en magasin,
Donc ça veut dire que les boutiques ne gagnent rien avec les consoles que les gens achètent très cher.
Ah, c'est ridicule.
Ouais. T'es d'accord avec ce début d'analyse de Gabriel, Cyril, sur justement cette guerre des prix qui
Je suis entièrement d'accord. C'est vrai que la guerre des prix, j'ai compté le rajouter aussi, mais c'est vrai que c'était une erreur. C'est vrai qu'on les clients étaient contents, ils avaient leur jeu à 50 euros ou à 55 euros. Mais nous, on bouffait notre marge, enfin, en fait, on gagnait rien, quoi.
Ça vous faisait du mal, quoi. Il y avait du monde en boutique, vous y tournez vos jeux, mais vous gagniez rien, quoi.
Oui, en fait, on faisait du chiffre d'affaires, donc c'est vrai que la direction était contente, il y avait beaucoup de chiffre d'affaires. Mais derrière, il n'y avait pas de bénéfice.
Mais la guerre des prix, c'était contre qui? C'était contre les prix d'Internet ou c'était quoi?
C'était Internet et c'était les grandes surfaces. Le Carrefour est très, très, très agressif sur les prix.
Donc, vous vous alignez sur la sortie des gros jeux, sur tous les prix de grandes surfaces,
etc. En fait, ça dépend le magasin. Après, moi, mon magasin, c'était Carrefour.
D'accord.
Oui, vous vous alignez. Chaque boutique game s'alignait sur des concurrents différents géographiques.
Voilà, après, c'était la France des magasins qui faisait le tour des concurrents et qui s'alignait sur le moins cher.
D'accord.
Gabriel, on te laisse poursuivre sur ce que tu.
Ton troisième point.
Moi, le dernier point, et Cyril l'a rappelé tout à l'heure, c'était leur logiciel, leur changement de logiciel. Parce que moi, j'ai été situé, je suis toujours situé dans une galerie où il y a un game à 20 mètres, entre guillemets. Le jour où leur logiciel a planté, pendant un mois, j'ai vu défiler un tiers de clients supplémentaires qui venaient vendre leur jeu, quoi.
Ouais.
Donc, parce que nous, notre caisse marchait très bien aussi. Les gens, une fois que tu les défends, qu'ils franchissent le pas de passer de l'un à l'autre, ils reviennent, ils peuvent revenir plus souvent rien parce que tu leur génères un avoir qui reviennent chez toi juste ici. Donc, on a récupéré pas mal de clients à ce moment-là aussi.
Dans le point précédent, Gabriel, tu soulignais un point très important que parfois les gens sous-estiment, qui est que les jeux, ça a un certain prix, etc. Que c'est évident qu'il y a cette course au prix, mais il y a quelque chose que tu me disais qui est quand même assez retentissant, c'est la manière dont aujourd'hui les gens consomment finalement. Et tu disais, les joueurs n'achètent plus un produit, mais un prix.
Oui, c'est beaucoup achètent plus. beaucoup achètent ça. Viennent, t'as toujours des gamers qui aiment les boutiques et qui viennent pour discuter. Mais beaucoup de gens aujourd'hui passent par Internet parce qu'ils achètent un prix plus que le produit. Mmh. Et ils achètent sur des sites qui sont situés dans des paradis fiscaux. Il y a pas où ils payent pas d'impôts, il y a pas de taxes, donc t'as pas de TVA ou des choses de ce type-là. Donc la différence de prix peut être énorme. Et aujourd'hui, beaucoup se contentent du prix plus que du produit.
Ça, c'est un argument qui a été repris par Virgin d'ailleurs. Et là, c'est notamment Amazon.
Et par la ministre Aurélie Filippetti aussi, la fiscalité.
Voilà.
Bah après,
là, on parle d'Amazon, hein, pour être clair.
Oui. Amazon, il ne paye pas d'impôts en France.
Ah ouais.
Mais ça, quelque part, ça sonne le glas à plus ou moins long terme de toute boutique dématérialisée en France, en tout cas, puisque vous ne pourrez pas lutter contre Internet. Et si les gens sont partis dans la guerre
physique,
des prix,
tu veux dire.
Voilà.
Oui.
Si les gens sont partis dans la guerre des prix juste, y aura, c'est condamné, non?
Oui et non, parce que le gamer est une partie de la clientèle. Mm-hmm. Tu as aussi les joueurs qu'on aime bien cataloguer comme casu, qui dont la mère de famille ou des choses de ce type-là, qui quand ils font leurs courses dans des galeries, passent dans des boutiques et achètent leurs jeux de ce style-là. Mm-hmm. Le gamer, on essaie de le récupérer par du service. Donc on essaie de se diversifier au max. Donc par exemple, on avait lancé l'année dernière un service Gamers Club de rachat de jeux à plein tarif avec un système d'abonnement qui pouvait le dépanner. Mmh. On a lancé le rachat et la vente d'iPod, enfin tout le matériel Apple. Mmh. qui se développe énormément. Et sur des jeux, quand vous les réservez, les achetez chez nous, vous avez
des DLC
offerts à l'achat ou des choses de type là, c'est sur ce genre de petites choses-là qu'on se démarque et qu'on peut encore survivre aujourd'hui.
Ouais. Mais alors à plus long terme, est-ce que ça peut
tenir?
Est-ce que c'est pas juste une manière de survivre plutôt qu'autre chose en fait?
À l'heure actuelle, je pense qu'on peut vivre encore longtemps si le système actuel reste comme ça. La seule crainte que j'ai, c'est la destruction de l'occasion. Mm-hmm. Si effectivement ils arrivent à faire leur légalement et que ça passe ce que le fameux brevet Sony ou des choses de ce type là, si l'occasion meurt, c'est toutes les boutiques, quelles qu'elles soient, indépendantes ou autres, qui finiront par mourir.
D'accord.
Parce qu'aujourd'hui l'essentiel de votre chiffre d'affaires et de vos marges s'effectue sur l'occasion.
Oui, puis c'est un cycle vertueux, l'occasion. Si tu veux, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, et ce que les éditeurs non plus, c'est que Cyril pourra sûrement te le confirmer aussi, les trois quarts des jeux neufs que tu vends sont vendus par du rachat d'occasion.
Mmh. Eh oui, bien sûr. Ça alimente.
Ah oui, ça oui.
Tu nous le confirmes, Cyril, chez Game, pareil?
Je confirme totalement. Ouais. Mmh.
Donc la mort de l'occasion, c'est la mort des boutiques, mais aussi, c'est à plus d'un titre, c'est parce que ça finance finalement le neuf.
Non, parce que ce que les éditeurs n'arrivent pas à comprendre, c'est que l'occasion leur permet de vendre du neuf. Mmh. Donc s'ils finissent par détruire l'occasion, je suis persuadé qu'ils auront quand même une chute assez importante des ventes de neuf.
Mmh. Et tu disais justement, Gabriel, de plus en plus que les gamers finalement passaient dans les boutiques et achetaient après sur le net, donc, et qu'en revanche les joueurs plus occasionnels, les casus, eux consommaient, est-ce que du coup les boutiques vont pas aussi changer pour toucher de plus en plus cette population?
Ah bah, les boutiques, elles ont évolué en 2006 avec l'avènement de la DS et de la Wii. Mmh. Qui se sont vendus avec des chiffres hallucinants et qui nous a amené une nouvelle clientèle. Et cette clientèle-là, il faut que tu la satisfasses aussi. Donc on a fait en sorte qu'elle se retrouve aussi chez nous. Et je pense que tu as beaucoup de gamers qui n'ont pas forcément pardonné, qu'on accorde de la place à autre chose qui se considérait que c'était les boutiques spécialisées, c'était leur domaine, si tu veux. Ouais.
Et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ces boutiques spécialisées, c'est quoi la proportion entre, on va dire, gamers, c'est-à-dire les joueurs un peu plus chevronnés, et les casuals?
Bah, c'est assez fluctuant sur l'année, si tu veux. Tu as des périodes comme Noël où tu vas faire 60% de casus et 40% de gros gamers parce que tout le monde achète tout et n'importe quoi. Mmh. Sur des périodes comme ça. Après, sur le reste de l'année, tout va dépendre des grosses sorties de jeux. Quand t'as une grosse sortie d'un gros titre gamer, les gamers ressortent. Ouais. À part un jeu comme GTA ou des choses qui amènent tout, ça va être assez variable sur le long de l'année.
Est-ce que vous avez le sentiment que le conseil, c'est-à-dire cette partie du rôle du vendeur qui est de conseiller le client qui rentre et qui n'est pas forcément déjà acquis à un achat en particulier, les gens s'en préoccupent encore plus ou moins qu'avant sur ces dernières années? Comment ça se passe, cette spécificité des boutiques?
Il s'en préoccupe plus, à mon sens, parce que c'est ce qui démarque d'une grande surface. En grande surface, pour exagérer à peine le propos, je veux dire, celui qui te vend des jeux vidéo, c'est presque celui qui te remplit les fruits et légumes le matin. Oui. Donc,
Si t'as
une mère de famille qui vient, enfin, moi, j'ai vu plein de gens que, au tout départ de la 3DS, qui vendaient en grande surface des 3DS, les gens revenaient en magasin avec un gamin de 3 ans pour acheter un jeu alors qu'ils avaient acheté la console des fois en face, et que tu leur disais, bah, pensez à bien couper la 3D parce que bon, t'es quand même pas recommandé par les ophtalmos avant 7 ans. Elles te regardaient avec des grands yeux, ah bon. Sur le choix des jeux aussi, les 18 plus ou les choses de comme ça, beaucoup de gamins achètent des GTA sans savoir ce qu'il y a, les parents achètent sans savoir ce qu'il y a dedans, parce que chez beaucoup, la console, c'est quand même devenu la nourrice à pas cher. Ouais. Le conseil, à mon sens, c'est extrêmement important. Moi, ça fait 16 ans que je suis dans la vente, je suis passé par plein de boîtes, j'imagine pas quelque chose sans conseil. Moi, ça fait 10 ans que je travaille presque chez Micro. Donc, même si le métier a évolué en 10 ans, moi, c'est la première base, c'est ça, parce que ton client, si tu le satisfais, il revient. Quel qu'il soit, après, il t'achètera pas forcément 30 jeux par mois non plus, mais il revient.
Il y a un point aussi que tu m'avais souligné quand on en parlait, une grosse différence essentielle entre Micromania et Game, c'est le nombre d'employés moyens en général par boutique, qui fait que Micromania aujourd'hui c'est la première enseigne spécialisée hein, dans le jeu vidéo en France. Je crois que c'est 300 boutiques, c'est ça?
Ouais.
300 boutiques
300,
là où.
Même plus que ça, 380 presque.
380 boutiques là où Game avait à son pic 200 magasins. Mais proportionnellement, ils sont beaucoup plus nombreux.
Globalement, ils étaient plus. Ouais. Je pense, j'ai plus de chiffres exacts à te donner en tête. De ce que je voyais, c'est nous en magasin, on va tourner entre 2,5 et 4 en moyenne. Et Cyril pourra te dire un peu plus chez lui, mais globalement, ils étaient plus nombreux, aussi bien au siège qu'au dépôt, pour les mêmes choses. Et puis ta masse salariale aussi, c'est aujourd'hui, c'est ce qui te permet de survivre. Si elle est calculée exactement comme il faut, t'as pas de perte, quoi.
Tu nous confirmes ça, Cyril? Une masse salariale qui était peut-être disproportionnée par rapport au chiffre d'affaires effectué par Game?
Je confirme, vu que j'ai connu les deux boîtes, c'est vrai que je confirme la chose. Puis bon, après nous, ça fait un an qu'on est bien en sous-effectif. Hein. Comme je t'avais déjà expliqué, on a tous perdu, tous les magasins, une personne depuis un an. Hein. Donc on s'est retrouvé à deux par magasin, dans certains magasins, voire jusqu'à trois éventuellement.
Alors, Cyril, tu nous disais aussi que pour certains employés de Game, même visés par des reprises de Micromania, qui restent à acter, hein, on rappelle, c'est vendredi que le jugement va tomber, ils n'ont absolument pas envie d'aller travailler chez Micromania. Pourquoi?
Tu vas avoir des gens d'anciens Maxi Livres, donc qui ont connu Game. Game, c'était quand même une entreprise assez familiale, on va dire, avant l'affaire. Hein. Où c'était quand même assez cool, tout le monde se tutoie, tranquille, alors qu'ils vont arriver à Micromania, où il y a quand même plus de pression, c'est quand même plus cadré, donc je suis pas sûr que ces gens-là arrivent à s'implanter dans Micromania.
Mais j'ai envie de dire, visiblement, ça marche. C'est-à-dire que l'ambiance cool de Game, c'était peut-être une chose, mais au final, aujourd'hui, les gens vont être licenciés. Alors que l'ambiance peut-être plus cadrée de Micromania fait qu'aujourd'hui, bah, eux, ils sont premiers de France sur le secteur.
Mais après, ouais, c'est des gens, je pense, qui arriveront pas à s'implanter dans le réseau, à mon avis.
Ouais.
Et pars pour eux.
Ça concerne, de ce que tu sais, beaucoup de personnes ou c'est marginal?
Dans ma région, je connais personne qui veut aller à Micromania.
D'accord. Donc ça veut dire que même dans les offres de reprise qu'on évoque avec le nombre de reprises de salariés, ça se trouve, ces chiffres au final seront bien inférieurs parce que les gens n'auront tout simplement pas envie d'aller travailler chez Micromania. C'est le concurrent
problème,
toujours.
Ils seront obligés de le faire.
Ah, pourquoi?
Ils n'auront pas le choix.
Pourquoi?
En fait, la proposition de reprise, c'est la loi, c'est comme ça. Une fois qu'on est repris, on est obligé d'être repris, on va dire.
Pendant combien de temps? Ça doit être sur une durée.
Il n'y aura pas d'accès, en fait, il n'y aura pas d'accès au plan de départ qui va être fait aux gens qui ne sont pas repris.
En gros, tu n'as pas d'indemnité si tu refuses le poste.
C'est-à-dire que ta seule alternative, après, c'est de démissionner après, et donc de ne pas toucher de chômage. Okay.
C'est démission, abandon de poste ou licenciement à l'amiable.
D'accord. Donc là, mais alors ça, c'est quelque part, c'est un problème aussi pour le repreneur. Ça veut dire que quelque part, il y a certaines boutiques où des gens vont être forcés d'être pris et vont être totalement démobilisés ou n'auront pas l'envie d'être travaillés, quoi.
Voilà, ouais, c'est cet souci qui est arrivé. Hein.
Est-ce que c'est pas un peu mettre le verre dans la pomme de Micromania, Gabriel ? Qu'est-ce que t'en penses quand t'entends ça ?
Après, je peux comprendre parce que changer d'entreprise quand t'as été habitué, surtout dans ces conditions-là, ça peut faire peur. Moi, j'ai pas de problème avec ce sentiment-là. Mmh. Après, on verra. Je veux dire, bon, moi, je sais que moi, dans ma zone, on en accueillera de chez Game. On fera ce qu'il faut pour qu'ils se sentent bien. Après, si les gens ils ont pas envie de rester, après, on n'y peut pas grand-chose. J'ai envie de te dire, en sachant qu'en plus, en ordre de mémoire, ils reprennent un à deux par boutique, donc ils prendront forcément d'autres gens déjà de chez Micro de trucs, donc bon, ce sera pas même s'ils veulent partir et on retrouvera des gens pour prendre la place, c'est pas le souci, mais bon après bon, on est quand même dans un marché du travail qui est extrêmement tendu en temps de crise ou autre, donc bon après je sais pas, ils y mettront sûrement du leur aussi pour voir, mais bon après s'ils voient au bout de quelques temps si ça leur plaît pas et qu'ils veulent partir, moi j'ai pas de sentiment négatif à cet égard-là. Faut pas rester quelque part si tu t'y plais pas, quoi.
Bien sûr.
Ah, c'est sûr. Après, ouais, c'est des gens qui sont complètement démotivés aussi. Hein. C'est, ça fait un mois qu'on crève en magasin. Et c'est vrai que c'est des gens qui ont plus la motivation, qui ont plus envie de travailler tout simplement dans le commerce, en fait.
Ouais, c'est un malaise plus général, quoi. Ça n'a pas forcément à voir avec Micromania ou Game ou ailleurs.
Ça les a dégoûtés.
Pas forcément viser Micromania.
Non, mais il faut aussi voir aussi le sentiment, Cyril l'expliquait, de pas avoir de considération aussi bien des médias ou autres, mais il y a aussi de pas avoir de considération par rapport aux gens, certaines personnes. Parce que quand tu vois ce que les gens pensent des boutiques de manière générale sur les sites internet, forums et autres, t'es halluciné. Des fois, tu te fais traiter d'escroc, de vendu, de tout ce que tu veux. Ça. C'est juste sur des gens qui sont déjà démotivés, tu lis ça, t'as envie de te jeter par la fenêtre, quoi. Enfin, moi j'ai pas l'impression, et je pense que Cyril c'est pareil, et puis que tous les employés aussi bien de Micro de Game ou chez les indépendants, enfin j'ai pas l'impression d'être un escroc, si tu veux.
Ah non, sûrement pas, non.
Oui. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs un petit peu des grossistes ? Parce que de ce qu'on entend globalement, c'est que souvent, forcément, on tape sur ce qu'on connaît, ce qu'on voit, c'est-à-dire les boutiques, donc vous, les revendeurs. Mais quelque part, c'est vous qui avez les marges les plus faibles de toute cette chaîne ?
Oui.
Et qui donc avait les inconvénients de se faire défoncer sans avoir, on va dire, la plus-value d'être au moins bien payé.
Oui, enfin, après, on est salariés, donc c'est pas nous qui gérons ça.
Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que aussi pour survivre, il n'y a pas l'obligation quelque part que les grossistes baissent un peu leur marge pour continuer à faire vivre et fructifier les boutiques en dur ?
Après, c'est un engrenage, hein, c'est un engrenage. Hein. Je pense pas que ces boîtes-là acceptent de baisser leur marge. Je la sens pas trop l'histoire.
Hein. Même s'ils vont avoir de moins en moins de boutiques,
c'est-à-dire que dans ces cas-là, s'ils ne baissent pas leur marge et que les boutiques meurent, ils n'auront eux-mêmes grossistes plus personne à qui il faut régler la marchandise, quoi.
C'est tout ce qui est grande surface, ils continueront à acheter, quoi. Carrefour, c'est malgré tout le leader du jeu vidéo, quoi.
Ouais. Oui, certes, mais une chaîne comme Micromania représente certainement pour beaucoup de grossistes quand même un client pas négligeable, quoi. C'est peut-être pas le plus important, mais... C'est quand même une énorme chaîne.
Bah oui, les achats sont centralisés aussi.
Ça fait partie des plus gros clients qu'ils vont avoir, oui, ça c'est sûr.
Ah, c'est sûr.
Et tu nous y disais, Gabriel, donc à Micromania, il y a une sorte de changement d'attitude, c'est-à-dire qu'on était avant une chaîne spécialisée, enfin Micromania était une chaîne spécialisée dans le jeu vidéo exclusivement, et que de plus en plus il y a de la reprise de smartphones, de tablettes, et qu'apparemment ça marche bien.
Oui, parce qu'il y a de toute façon aujourd'hui t'es obligé de te diversifier pour vivre correctement. Donc on a lancé ça, puis t'es obligé de te mettre sur des marchés porteurs, donc tout ce qui est smartphone, smartphone, tablette, c'est le marché porteur, donc voilà, et effectivement ça marche.
Tu me disais qu'apparemment tu sentais assez mal les consoles portables justement.
Les portables, tout dépend de laquelle on parle. Je suis la 3DS, j'ai pas d'inquiétude, ça se vend par conteneur. Nintendo abreuve la machine de jeu aussi bien de chez eux, les éditeurs tirent son dessus, donc il y a de quoi la faire vivre. La Vita est plus inquiétante. parce que t'as pas de jeu.
Ouais.
Donc tu regardes, sur l'année dernière, t'as trois grands titres, Uncharted, Gravity Rush, Le Assassin. Le reste, c'est que des repompées de ce qui est déjà sur PS3. Donc pour vraiment avoir, on a beau dire, acheter une console, ce qui te fait acheter, c'est une exclue où tu te dis, il me faut la machine pour jouer à ce jeu-là, quoi. Donc tant que t'en as pas, et quand tu regardes les sorties prévues en Europe sur Vita pour cette année, enfin il y a pas de quoi sauter au plafond.
Et est-ce que tu
donc quand
ouais.
Quand j'avais vu ce que t'entends parler sur un de tes posts la semaine dernière, ou quand tu citais ce qu'on avait dit, où les mecs te disaient, mais c'est de votre faute chez Micro ou chez Truc si la console elle se vend pas. Bah non. Moi je demanderais qu'une chose, c'est à ce qu'elle se vende par conteneur comme la 3DS aussi. Mais c'est les jeux qui font vendre la console, et globalement des jeux t'en as pas. Et ça, je veux dire, c'est pas besoin de sortir de sentir pour le reconnaître, quoi.
Tu me disais qu'en gros il y a deux consoles qui sont dans un cas un petit peu difficile en ce moment, en tout cas on leur souhaite le meilleur pour l'avenir, mais enfin en ce moment c'est un peu compliqué, c'est la PS Vita et la Wii U, et que les deux au fur et à mesure sont de plus en plus relégués en arrière-boutique, puisque juste il n'y a pas de gens pour les acheter.
Pas la Wii U, la Wii U est pas reléguée en arrière-boutique non plus,
mais ça marchait mollement.
Non, le problème de la Wii U, et ça c'est lié beaucoup à la France, c'est que Nintendo France l'a marketé merdiquement. C'est-à-dire que je pense que Cyril sera d'accord avec moi. Les trois quarts des gens, quand c'est ce que je disais, viennent en magasin, te réclament la console portable qui a la tête de l'iPad. Mmh. Ils te réclament pas la nouvelle console de salon géniale de Nintendo. Donc c'est à partir du moment où, quand tu regardes comment ça a été marketé, tu vois toutes les pubs, ils te montrent que la mablette.
Ouais.
Et dans la tête des gens, parce que bon, faut pas se leurrer, le public de Nintendo aujourd'hui, c'est plus un public familial et occasionnel que le gros gamer, quoi. Donc si le public occasionnel il sait pas ce qu'il achète, tu peux pas vendre ça correctement.
Et au-delà de l'image et de la mauvaise peut-être perception de ce qu'est vraiment la machine en termes de vente,
moi de ce que j'en vois, c'est que ça entraîne pas, quoi. Même si j'ai vu les chiffres ce matin, ils en parlaient, qu'elle s'était vendue à 117 000 exemplaires, je crois, qui considèrent que c'est un lancement honorable, on est très loin du lancement de la Wii, quoi.
C'est pour resituer, c'était combien la Wii?
La Wii, j'ai plus les chiffres exacts, mais je crois que c'était 150 000 ou 160 000 sur la période. Et puis il y avait un entrain, tout le monde te l'a demandé, la Wii.
Ouais.
Enfin, je pense que Cyril, c'était pareil. T'avais des gens qui arrivaient, ils voulaient la Wii, ils voulaient le jeu où on peut bouger avec les mains. Enfin, ils l'avaient marketé, ça parlait aux gens. Et voilà, la demande, elle est minime, quoi.
Cyril, tu as eu la même perception sur les dernières semaines?
J'ai exactement la même perception. Enfin, on voit même, par exemple, jour de sortie de la Wii U, on n'a pas eu full, quoi. Je veux dire, il y a eu des gens, mais si on compare à la sortie de la Wii ou sortie de la DSi ou.
C'était pas un événement.
Ouais, c'est sûr que comparé à la sortie de la PS3, rien à voir.
Ah oui, ça n'a rien à voir.
Parce que en plus c'était encore la pleine époque où Sony avait l'aura PlayStation en plein boom. C'est-à-dire les gens jouaient pas à la console, ils jouaient à la PlayStation, quoi. Donc ils te réclamaient ça, c'était hallucinant.
Et alors comment vous voyez l'avenir avec parce qu'on sait donc effectivement que c'est cette année que les nouvelles consoles de Sony et de Microsoft vont sortir, de plus en plus les shops dématérialisés des constructeurs même se développent en suivant le plus possible aussi le modèle d'un écosystème à la Apple, etc. Comment est-ce que vous voyez cette évolution sur ce que sera votre métier demain et sur sur l'impact que ça risque d'avoir pour vous en tant que boutique?
Pour moi, l'évolution du dématérialisé, c'est une évolution. C'est pas un truc qu'on doit forcément craindre à proprement parler. Faut évoluer avec. Moi, aujourd'hui, en magasin, je vends du démat, je vends des codes, des extensions de jeux, des machins, et j'ai des gens qui sont contents de venir acheter même du démat avec un code sur ticket caisse. Parce que voilà, t'as quand même encore beaucoup de gens en France qui ne veulent pas utiliser leur carte bleue sur Internet. Et ça, faudrait remercier Sony d'avoir eu leur plantage il y a deux ans, qui avait pas mieux pour nous aider à ce niveau-là.
Il en faudrait un par an, et ça sauverait les boutiques.
Oui, ça, mais t'as encore beaucoup de gens, ce qui est même limite bizarre, qui ont peur d'internet encore au niveau du paiement, qui ont l'impression qu'ils vont se faire pirater dans tous les sens.
Même chez des jeunes,
Même chez des jeunes, ouais.
Okay.
Bah, les jeunes, tu sais, quand ils ont 18 ans et qu'ils ont toujours le risque de voir que leur pognon peut partir, ça en inquiète pas mal quand même.
Bien sûr.
Même si le risque est extrêmement minime en France, mais il y a beaucoup de gens qui ont peur. Et puis bon, chez des jeunes, c'est beaucoup les parents qui gèrent quand même leur compte. Ouais. Et eux ont encore cette flippette-là.
Bien sûr.
Et moi, je te dis, j'ai pas de problème avec l'évolution du DMAT. C'est une évolution. Pour moi, c'est pas une destruction pour le moment. Je te dis, la seule crainte que j'ai, c'est l'occasion. C'est tout. C'est la seule qui. Mais je ne pense pas qu'ils s'amuseront à faire ça sur la prochaine GEM parce qu'ils seront pas. Enfin, je pense pas que le public soit encore prêt à ça. Mmh. Et on n'a pas forcément les infrastructures non plus en France pour télécharger 25 ou 30 gigas de données en un temps correct. Quoi.
Mmh. Et juste une question. Excuse-moi.
Et, on n'a quand même pas beaucoup parlé d'Internet et j'ai l'impression que ça ne vous fait pas du tout peur, justement, Amazon, etc., qu'on a cité tout à l'heure, et les prix qu'ils pratiquent, c'est pas quelque chose qui vous met en flip, par exemple, chez Micromania, du coup.
Si tu veux, Amazon, je vais te dire quelque chose qui va peut-être te choquer, mais pour moi, c'était pas mon concurrent. Mon concurrent, c'était Game. On vend pas les mêmes produits, on n'a pas les mêmes coûts et tout, donc même si ça joue un peu, c'était pas mon concurrent dans ma tête. Et dans la tête de beaucoup, je pense.
Game, donc Cyril, tu confirmes que Game, c'est pareil, enfin, vous aviez pas la sensation qu'Amazon était votre concurrent?
Bah pour moi, bon, ils ont mangé une part de marché, c'est sûr, enfin, pas dire le contraire, mais après, c'est pas... Ouais, le concurrent principal, c'était Micromania. Quoi.
D'accord.
Mmh. Une dernière question, Raon.
Je voulais savoir par rapport au public plus occasionnel, enfin je veux dire aujourd'hui on a quand même la sensation grosso modo en tant qu'observateur de tout ça, de cette industrie extérieurement, que le hardcore gamer traditionnel c'est plus forcément en quantité en tous les cas de consommateurs le plus important sur le marché du jeu vidéo plus large. Vous, dans les boutiques, vous êtes a priori plus en contact avec ce type de joueurs-là aussi. Les gens qui viennent chez vous consomment beaucoup ou revendent beaucoup aussi quand ce sont des joueurs occasionnels. Ils utilisent beaucoup l'occasion, en fait, ces gens-là aussi, ou est-ce que c'est vraiment un truc de gamer?
Non, non, les deux.
Les deux,
la mère de famille, quand tu lui expliques que les 10 jeux que son fils il a dans sa bibliothèque qui joue plus, ça peut lui rapporter de l'argent pour acheter un autre truc, elle est réceptive.
D'accord, ok. D'accord, donc effectivement, l'occasion, c'est vraiment un truc implanté dans toutes les strates de tous les joueurs différents, tous les consommateurs.
De toute façon, l'occasion, c'est l'ADN des boutiques, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire, on peut pas acheter tout le temps du jeu neuf ou machin, puis il y a des périodes où t'as pas de sorties qui sont assez creuses, bah, l'occasion de la grosse sortie précédente, ça aide à patienter. Donc, l'occasion, ça fait vraiment partie de l'ADN des boutiques. Je pense que Cyril, il sera aussi d'accord avec moi là-dessus. C'est ce qui fait vivre ton magasin toute l'année. Parce que t'as branché. Et là, qui sort tous les mois, quoi.
Et une petite question pour toi, Gabriel, pour Micromania. Est-ce qu'il n'y a pas une petite crainte, quand même, dans l'absolu, que maintenant qu'une grande quantité de joueurs ont bénéficié des soldes extrêmement agressifs de Game et se sont remplis les poches de kilotonnes de jeux, et donc ça va leur prendre un petit peu de temps, le temps de jouer à tout ça, ils vont peut-être être moins enclins à acheter vite les jeux qui vont sortir là en ce début d'année, en tout cas, peut-être en se disant je les achèterai quand ils seront en occasion, donc un peu plus tard. Et qu'en attendant, ils vont se détourner un peu des boutiques ?
Non, parce que quand je vois la pléiade de titres qui sortent rien que dans le premier trimestre cette année, même ce qu'ils ont acheté chez Game, nous on les rachètera dans nos magasins. Donc vu les prix qu'ils ont fait, limite si on va pas des fois leur acheter plus cher que ce qu'ils ont acheté le jeu. Donc ça m'inquiète pas. Leur jeu qu'ils ont fini, on trouvera preneur et puis ils rachèteront des nouveautés. Ça me pose pas de problème.
D'accord. Pour conclure cette émission, messieurs, est-ce que vous auriez quelque chose que vous teniez à rajouter, peut-être Cyril ?
Je remercie déjà le rédacteur de Gameblog d'avoir bien suivi l'affaire. Contrairement à d'autres.
Ça paraissait normal.
Et puis après, mon ressenti plus personnel, comme tous les employés, on se languit la fin et puis on deviendra de simples gamers pour la plupart, quoi. Mm-hmm. On ira à Micromania.
Voilà. Ok.
D'accord. Donc on rappelle que la décision de justice du tribunal de commerce de Bobigny sera rendue ce vendredi, hein, 25 janvier. Un dernier mot, Gabriel ?
Oui, moi c'est juste pour. Je vais dire que je leur apporte tout mon soutien et que je suis bien désolé pour eux parce que ils payent quand même une grosse partie des erreurs de leur direction dont eux n'ont rien à voir. Et ça, c'est quand même malheureux. Et donc, moi, je vais aller saluer les gars de la boutique Game cet après-midi quand je vais aller bosser pour leur dire au revoir, parce que bon, c'était des concurrents de fait, mais on était collègues et amis pour beaucoup. Mmh. Donc, ça fait toujours mal au cœur de voir disparaître une ancienne qui avait pignon sur rue quand même comme Game. Et en conclusion, j'aimerais quand même dire que je remercie aussi Gameblog d'avoir fait part de cette affaire-là, parce que je me dis que si un jour ça arrive à d'autres, au moins vous en parlerez contrairement à d'autres. Ça apporte un soutien certain aux gens, et que tous ceux qui écouteront ce podcast et qui nous jetteront des fléchettes en pleine tête parce qu'ils trouveront qu'on a dit des bêtises ou autre, de bien réfléchir aussi à ce qu'ils disent, parce que tous les gens qui sont au magasin sont des êtres humains, sont pas des terroristes, des tueurs, des vendus, des voleurs, des choses de ce type-là. Donc bien faire gaffe à ce qu'ils disent, parce que le couvert de l'anonymat sur Internet, c'est sympa, mais à un moment, il y a des gens derrière aussi. Et puis d'essayer de faire vivre un minimum les boutiques qui restent, parce que il y a des métiers qui ne doivent pas se perdre.
Et une fois de plus, hein, un achat c'est un vote militant.
C'est un acte militant. Oui.
Quand on est gamer, ouais. C'est votre décision. Hein, mais si pour vous il est important d'avoir ce contact en boutique, un peu de lien social quelque part, si vous voulez faire perdurer ces boutiques et avoir les jeux en dur, c'est une certitude que vaut mieux continuer à les acheter en boutique que systématiquement sur le net, où les prix effectivement sont parfois un peu moins chers, mais parfois il faut payer un tout petit peu plus cher pour avoir une espèce de qualité peut-être aussi.
Il faut pas qu'ils oublient qu'eux aussi, ont un métier, et que dans les conditions actuelles, ils sont pas à l'abri de le perdre à un moment, et qu'ils aimeront peut-être bien qu'il y ait des gens qui les soutiennent à ce moment-là.
Mais à votre direction, je parle de Micromania, de faire en sorte justement que ce métier perdure, bien au-delà de ce que vous pouvez faire en tant que vendeur, c'est votre direction qui va faire que ça va rester un compétiteur par rapport à Internet, par rapport aux dématérialisés.
J'ai pas d'inquiétude là-dessus, Julo. On s'est quand même bien diversifié, on lance plein de choses tous les ans, on a des promos cyclés à un moment, donc on a su aussi évoluer pour continuer à attirer les gens.
Et alors juste
je m'en fais pas pour eux.
Excuse-moi Cyril.
Je m'en fais pas pour eux, ils ont su prendre le taureau par les cornes, contrairement à Game.
C'est vrai que Micromania est très actif même en termes de communication. Et juste vraiment pour conclure, il y a des bruits de couloir, Gabriel, qui disent qu'un Micromania Game Show, après sa disparition il y a quelques temps, pourrait renaître.
Je peux pas te dire. Tout à fait honnêtement, je sais pas.
Parce qu'il faut d'abord tuer le Paris Games Week, non? C'est compliqué.
Non, justement, faire un autre événement, peut-être un peu moins fastueux qu'avant, revenir, parce que c'était effectivement en termes événementiels, ça faisait de la visibilité forte pour Micromania.
Puis les gens étaient contents. Mais bon, ouais. Effectivement, le Paris Games Week, faut pas oublier que pour créer un salon comme ça, il faut des bornes d'éditeurs. Et que il y en a 4000 globalement en Europe. Donc quand tu les poses sur un salon, tu peux pas les poser sur un autre. Donc faudrait trouver une date pour mettre un autre salon, quoi.
En tout cas, on va suivre là. Merci Gabriel, merci Cyril. Cyril, une pensée toute particulière pour toi, hein, puisque effectivement vendredi, c'est un peu la fin de tout ce processus, et on a envie de dire pour certains, enfin, vous allez pouvoir passer à autre chose. Merci pour votre confiance aussi, sur toutes les informations que vous avez pu nous livrer au fil de ces semaines, pour qu'on puisse mieux comprendre un petit peu la situation réellement de l'intérieur de Game et la mort de l'une des enseignes emblématiques, des plus importantes en France, de vente spécialisée de jeux vidéo. Nous, en tout cas, comme le disait très justement Gabriel, n'hésitez pas à réagir dans le forum, hein, si vous avez des choses à ajouter, peut-être que vous êtes aussi revendeur dans d'autres boutiques, et partagez vos opinions sur la situation. Et une fois de plus, comme le disait Gabriel, n'oubliez pas que derrière, il y a des humains, donc posez aussi un petit peu, l'anonymat d'Internet ne fait pas tout. Voilà, on espère se retrouver nous la semaine prochaine avec un podcast un petit peu plus léger, parce que le jeu vidéo continue, même s'il fallait prendre ce temps, parce que tout n'est pas toujours rigolo le monde du jeu vidéo. Merci Cyril, merci Gabriel.
Merci les gars.
Merci.
Merci à vous.
Et puis à la semaine prochaine sur Gameblog. Portez-vous bien et surtout, jouez bien. Ciao.
Salut.
Salut.